Si vous avez besoin d'un médecin, suivez le bon chemin. Appelez votre médecin traitant en priorité. S'il n'est pas disponible, consultez la carte des lieux de soins proches de vous sur santé.fr. En dernier recours, appelez le 15 avant d'aller aux urgences. Ceci est un message du gouvernement.
Même que nous ne connaissons pas.
Et qu'on va découvrir à ce moment-là. Laurence Saint-Gérard, poursuivons ensemble votre belle histoire d'amour. Vous êtes frappée par la foudre de l'amour en pleine nuit. Mais alors, le jour levé, que ressentez-vous ?
Et ben, le jour levé, on se rend compte que ça n'était pas un rêve, que ça, tout ça a bien existé. Et l'harmonie et l'amour se manifestent encore plus délicatement. Et dès le lendemain de ma rencontre avec ce garçon, il m'a donné les clés de chez lui, alors qu'il n'avait jamais ramené personne chez lui, encore moins donné donc sa clé.
Donc vous ça, imaginez, c'est lui. Mais ça, vous, c'est lui. Dans votre situation, est-ce que vous êtes rattrapé par votre réalité ?
Je suis inondé de sentiments à ce moment-là. En même temps, il y a évidemment des scrupules. On se réveille, on se dit, mais quand même, je suis marié, père de famille, évidemment. Mais pas de culpabilité, puisque pour l'instant, l'histoire n'est connue de personne. Donc, je ne fais souffrir personne. Alors, pardon, c'est un petit peu à ce moment-là ma tambouille, voyez, que je me fais. Et c'est quatre mois de clandestinité qui sont assez faciles. Mais le mensonge est quand même l'ennemi mortel du couple, et j'en fais l'amer constat, parce que mentir à ma femme est insupportable. Je perds 6 kilos, mon corps s'en mêle lui-même, vous voyez, dans toutes les aspérités du mot, et un matin, en larmes, je lui fais cette funeste révélation que je suis tombé amoureux d'un garçon depuis 4 mois, et je lui dis, je suis désolé du mal que je vais te faire. Voilà. Et le sol s'est dérobé sous ses pieds, ça a été effrayant. Je ne sais pas comment on peut faire autant de mal à quelqu'un, enfin un autre être humain, et personne n'est préparé à ça. Alors, un homme marié qui tombe amoureux d'un autre mec, je ne suis pas le premier, pas le dernier. Je banalise pas, mais enfin voilà. En revanche, là où mon histoire est extraordinaire et singulière et est portée par les super pouvoirs de l'amour, c'est pour ça que je suis très fier de participer à cette émission, en espérant l'illustrer un peu par mon exemple, c'est que ma femme m'aimait tellement que un mois après ma révélation, elle m'a fait une impensable proposition contre l'avis général. Tout le monde autour d'elle disait « Mais divorce de cet affreux PD, c'est épouvantable ce qu'il te fait. » Enfin, tempête de souffrance en perspective. Bon, elle n'a écouté que son cœur. Son cœur lui disait que malgré le mal que lui faisait ce salaud, elle m'aimait toujours. Elle m'a proposé que nous continuions d'inventer notre lien. Elle a accepté mon attachement à ce garçon. Sans doute a-t-elle pensé, je suis tout à fait d'accord avec ce que nous disait Géraldine tout à l'heure, sur les projections, etc.
Elle a accepté finalement un mode de vie assez extraordinaire.
Oui.
Vous avez pendant 3 ans partagé votre vie entre Paris avec votre amoureux, la campagne avec votre famille. Aurore Malécaras, l'acceptation d'un mode de vie extraordinaire comme celui-ci, qui n'était pas le schéma, visiblement, de l'ex-femme de Laurence Saint-Gérard. Est-ce que ce serait pas la preuve d'une forme d'amour inconditionnel ?
Tout à fait. Tout à fait. Alors, moi, je suis un peu biaisée parce que ce type de cas, c'est ce que j'ai, moi, beaucoup en cabinet. Donc, je suis assez spécialisée dans ce type de cas, donc j'en ai, moi, beaucoup. Ça reste, en effet, assez rare. Mais néanmoins, c'est aussi, comment dire, le destin qui va nous amener, exactement comme Géraldine nous a dit, à revoir nos positions, à revoir nos valeurs, à voir en fait que l'amour, en fait, il peut porter une infinité de visages. Et c'est fascinant.
Alors, j'insiste sur le fait que la situation a été juste et consentie entre 3 adultes.
Tout à fait.
Ma femme a accepté de me partager par amour. J'ai eu en face de ça un compagnon, Sam, qui lui a été remarquable, qui n'a jamais fait de chantage, qui a jamais été, qui lui aussi a compris que je n'étais pas sa propriété. C'est important, ça.
Géraldine Prévost-Gigant, dans l'histoire de Laurent, l'amour est partout. L'intelligence aussi, il nous le décrit. Et je pense bien sûr à son ex-femme qui a choisi de préserver la relation en taisant certainement sa douleur à elle. Est-ce qu'on est tous capables de ça ?
Non, pas tous, parce que ça vient réveiller pour certains d'entre nous des blessures d'abandon, des blessures de ce que nous avons pu vivre en tant qu'enfants, des deuils, des séparations avec nos figures d'attachement initiaux. Et ça peut être très très compliqué et faire basculer certaines personnes vraiment dans des souffrances telles qu'il va en effet y avoir du chantage, du harcèlement, de la violence psychologique, de la violence physique parfois. Ce qui est très beau dans ce que Laurent nous partage, c'est que finalement, ce temps a été nécessaire pour les trois, j'ai l'impression. Pour Delphine, ça lui a donné le temps.
Bien sûr.
Cette proposition lui a donné le temps, finalement, de faire le deuil et de passer
d'aller
à une autre partie
de notre statut de mariée. On a ça donné du temps,
de passer à une autre étape de vie pour elle. Pour Sam, ça lui a permis aussi d'entrer dans la relation d'une façon graduelle, très certainement.
De ne pas avoir à me supporter 7 jours sur 7, voilà. Ce qui était très bien aussi.
Et pour vous, de faire aussi tout le processus exactement. Pour traverser ces étapes si intenses et fortes et ce changement de vie radical.
Vivre le grand amour, comme on dit, ça bouleverse, ça questionne, parfois aussi bien sûr. Lucio Battisti le raconte dans Ancora tu.
Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me? Scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane. Forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so. Cosa tu vuoi sapere? Nessuna no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile.
Lucio Battisti, ancora tu.
Yasmine Oublis.
Salut, ça vous me les fêtards?
Marnie est venue t'aider à faire ta valise.
Oh, c'est trop gentil, ça c'est une copine.
Une vraie amie.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
De retour avec nos invités pour évoquer ensemble les super pouvoirs de l'amour, devrais-je dire des amours, parce que l'amour est polymorphe. Aurore Malek-Arras, vous qui êtes neuroscientifique, on va aborder ensemble un amour fondamentale, je dirais dans le sens premier du terme. Pouvez-vous nous dire si l'amour filial active les mêmes zones du cerveau que l'amour romantique ?
Eh bien, ça n'active pas les mêmes zones. Il y a des zones en commun et des zones qui vont être différentes. Et c'est ça qui est très intéressant. On va avoir des zones qu'on va retrouver dans cette deuxième phase de l'amour, de la phase d'attachement. On va avoir l'implication de plusieurs hormones, qu'on connaît, qu'on appelle l'ocytocine et la vasopressine, qui sont des hormones importantes pour le lien.
Dès la naissance de l'enfant.
Dès la naissance de l'enfant, et qu'on va avoir un petit peu plus tard dans la relation amoureuse. C'est très intéressant parce que, là pour le coup, les neurosciences ont trouvé des choses très intéressantes, et on sait que chez les parents, chez les mères, mais aussi chez les pères, quand ils sont avec des enfants, plus ils passent de temps avec leur enfant, plus il va y avoir une plasticité cérébrale. Plasticité qu'on peut voir à l'IRM, on peut voir en IRM des parents, juste en regardant des IRM, juste en regardant des photos du cerveau, quelle personne a été parent, quelle personne n'a pas été parent.
Mmh. Impressionnant. Incroyable. Géraldine Prévost-Gigant, est-ce que vous pourriez, vous, nous dire quel est le super pouvoir de l'amour filial ?
Il est extrêmement important parce que ce sont les premières nourritures affectives que nous allons recevoir, qui vont nous sécuriser, qui vont aussi nourrir au niveau du cerveau, au niveau neuronal. Hein, Aurore va me le confirmer sûrement. Mm-hmm. Ça va donner du boost au niveau neuronal. Et surtout, si nous vivons des attachements sécures avec nos parents, cela va avoir, ça va créer un terreau propice pour nos amours futurs. Et donc ça va créer ce qu'on appelle nos styles d'attachement. Et donc on peut avoir des styles d'attachement sécures ou des styles d'attachement insécures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on va rencontrer quelqu'un, qu'on va tomber amoureux, on va vivre dans l'insécurité plus que quelqu'un d'autre. Il y a des personnes, elles tombent amoureuses, elles sont boostées par toutes ces drogues neurochimiques, et tout va bien, elles ont la patate et tout. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes que ça va les angoisser. Ils sont amoureux, amoureuses, mais il y a de l'anxiété permanente.
Tout ça dépend de l'amour filial
bien
qu'ils ont reçu ou pas.
Ce qu'on aura vécu initialement va vraiment contribuer à la façon dont nous allons vivre nos amours. Mmh. Et donc de le comprendre, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que de travailler sur soi, de comprendre quelle est notre histoire, va nous permettre de rééquilibrer ceci, d'être en conscience dans notre vécu et de pouvoir vivre nos relations amoureuses ou notre grand amour en donnant à ce grand amour toutes les chances.
Mais oui.
De pouvoir durer confortablement.
Oui. Alors, Laurence Saint-Gérard, dans votre livre, D'un cœur à l'autre, vous racontez votre histoire d'amour absolument romantique avec votre compagnon, mais ce qui est très touchant en vous lisant, c'est de ressentir l'amour puissant que vous partagez avec vos enfants. Est-ce qu'il vous a porté les uns les autres dans cette histoire, j'ai envie de dire, particulière ?
Alors, ma chance, si j'ose dire, c'est que mes enfants étaient très petits. Quand j'ai fait cette rencontre. Donc, on a essayé de les préserver au maximum. Ça, c'est la première gratitude que j'ai pour mon ex-femme. C'est qu'elle a su faire la part des choses. Elle s'est pas servi des enfants, comme on le voit trop souvent aujourd'hui dans des séparations douloureuses, comme d'épées ou de boucliers. On n'a pas fait les enfants des otages. Alors, en fait, c'est très intéressant ce qu'a dit Aurore tout à l'heure. Moi, je les voyais moins, mais je les voyais mieux. C'est-à-dire que j'étais plus en conscience avec eux. Et j'ai pensé longtemps que je devais choisir entre ma vérité et être un bon père. Et bien, en fait, je me suis rendu compte que je suis devenu un meilleur père en étant dans ma vérité.
Il me semble que vous, ils vous l'ont dit d'ailleurs, vos enfants.
Oui, ma fille Marie, avec laquelle je partage cette belle aventure de Lolo le Daron sur les réseaux sociaux.
Oui, je vous invite à découvrir les vidéos humoristiques du personnage Lolo le Daron qu'a créé Laurent Saint-Gérard. C'est une parenthèse, mais Marie, votre fille, vous en êtes très proche.
Oui, absolument. À 8 ans et demi, elle est dans le couloir à la maison, elle me voit arriver, elle me dit « C'est fou ce que t'as l'air plus heureux qu'avant, papa. » Et j'étais dans ma double vie assumée, à la lumière de la vérité, en accord évidemment avec ma femme à l'époque, et évidemment mon compagnon. Et tout ça s'harmonisait plutôt pas mal. Et les enfants le sentaient, et elle me l'a dit. Alors moi, je suis rentré dans ma chambre, j'ai pleuré comme une madeleine. Tout ça est dans mon livre, et voilà, c'est des moments incroyables, c'est des moments que j'ai l'impression d'être devenu l'acteur de ma vie, d'avoir inventé, réinventé des choses qui n'existaient pas au temps de mes parents, de mes grands-parents, c'est certain.
Alors, lorsqu'on parle de l'amour qui unit les parents à leurs enfants, on parle d'un amour inconditionnel et qui résiste face aux tempêtes de la vie, finalement. Aurore Malécaras, comment on explique ça ? La résistance au temps.
Alors, il ne faut pas oublier que on est quand même des animaux. Le but de notre machinerie, c'est quand même de nous maintenir en vie. Tout notre cerveau, il est câblé pour un truc principal qui va être faire des relations. Il faut que les relations, elles tiennent. On demandait justement quels sont les super-pouvoirs de l'amour. Ben en fait, un des simples super-pouvoirs de l'amour, c'est ce qui nous maintient en vie. Et ça nous maintient en relation avec les autres, ça nous maintient vivants. C'est exactement ce qu'on vient d'entendre avec cette histoire-là. Quand des parents s'occupent bien de leur enfant, qui leur donnent de l'amour, on va avoir ce qu'on appelle la période des 1000 jours, depuis le début de la conception jusqu'aux 1000 jours après la naissance de l'enfant.
Il existe d'ailleurs un site qui s'appelle les 1000 premiers jours, qui est fondamental pour les jeunes parents, et je vous le recommande si vous êtes dans ce cas-là.
Tout à fait. Et c'est très très important que les parents soient bien encadrés. C'est des vrais enjeux de santé publique parce que des fois, ça se passe très bien. Malheureusement, des fois, pour plein de raisons, ça ne se passe pas bien. Parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a des décès, parce que... Enfin bref, la vie. Et en fait, quand justement ces 1000 jours se passent bien, on va avoir justement ces attachements sécures dont Géraldine parlait juste avant. Et en fait, c'est vraiment une nourriture et c'est vraiment un socle ultra fondamental que les parents vont pouvoir donner aux enfants. Et c'est ça qui va en fait durer.
Oui, mais comment on explique que l'amour des parents, malgré, je dis les tempêtes de la vie, mais est-ce que peuvent leur renvoyer leurs enfants, parfois l'ingratitude aussi de leurs enfants, eh bien ça continue quand même.
Bah, y a l'amour de soi aussi, dont on va peut-être parler tout à l'heure, qui permet en fait d'avoir ça.
On est bien d'accord. Alors, il y a un amour, si la force de cet amour-là, est, on le sait, c'est connu de tous et c'est l'objet de nombreux ouvrages, il y a un amour qui dit souvent pas son nom, voilà. Je pense à l'amour amical. Et pourtant, c'est bien quand même le premier amour dont on parle quand on est enfant. Rappelez-vous, on s'offre des bracelets d'amitié, on se dit qu'on est les meilleurs amis pour la vie. Géraldine Prévost-Gigant, qu'est-ce que ça raconte, ça ?
Ça raconte l'histoire humaine, ça raconte notre besoin d'être en relation, en complicité avec d'autres êtres. Ça raconte aussi que nous sommes des êtres de cœur et que nous avons besoin de partager des sentiments, de la complicité, des aventures de vie. L'amitié peut être aussi bouleversante qu'une rencontre amoureuse, parce qu'on dit qu'on a des coups de foudre amicaux, et donc la rencontre amicale peut être aussi bouleversante qu'une histoire d'amour, et on peut aussi vivre des ruptures qui nous mettent par terre. Et donc les pouvoirs de l'amour, je trouve, s'invitent aussi dans ces relations amicales. Qui on va appeler quand on a une tuile, notre meilleur ami, nos amis, qui on aime réunir lors de grands événements, nos amis, avec nos amours. Donc vraiment, nos amitiés sont peuplent notre vie. Ils sont là, c'est un cercle amical. On parle de cercle amical, donc ça va nous sécuriser, nous donner un sentiment d'appartenance, de reliance, et on a énormément besoin de partager.
Alors, vous n'êtes pas avec nous dans le studio, mais je vous fais partager ce qui se passe. Laurent Saint-Gérard me fait des signes pour réagir sur cet amour amical. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire ?
Parce que vous êtes, Yasmine, une formidable animatrice et que je vais absolument respecter les temps de parole de chacun, bien entendu, et je vous obéis à la lettre.
Mais
Géraldine parle tellement bien de l'amour en amitié. Je voulais simplement citer Montesquieu qui a cette phrase que j'adore.
Ah bah alors là.
Voilà, qui dit « Je suis amoureux de l'amitié ».
Ah,
voilà.
Merci, effectivement.
Hein, c'est pas mal.
Ça valait le coup, je suis bien d'accord. Aurore Malécaras, vous qui êtes neuroscientifique, est-ce qu'on peut distinguer, peut-être que vous allez encore me dire non, hein, mais scientifiquement, l'amour romantique de l'amour amical ?
Alors, encore une fois, je vais vous dire, la science est à ses débuts. Pourquoi j'insiste beaucoup dessus ? C'est parce que je vois énormément de dévoiements de la science sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis là justement aussi pour amener un peu de rigueur et un peu de cadre à tout ça.
Vous faites bien.
Voilà. Oui, on est capable de voir des différences entre l'amour romantique et l'amour amical, sachant que l'amour amical est quand même un grand oublié de la science, de la psychologie. On en parle très 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 peu. C'est quelque chose qui est en train de changer depuis à peine quelques années, mais on est vraiment au tout début. Et en fait, ce qui va vraiment faire la différence, c'est que dans l'amour romantique, on va vraiment avoir toute cette machinerie sexuelle qu'on n'aura pas dans l'amour amical.
Là, vous parlez du désir. C'est ça la différence ?
Eh ben, il semblerait. que ce soit quelque chose du désir, de l'ordre de l'excitation sexuelle, quelque chose qui va aller mettre quand même quelque chose en branle du côté d'un élan, en tout cas, autour de la sexualité.
Est-ce que la trahison en amitié peut avoir le même effet qu'une trahison amoureuse?
Oui.
Vous pensez que oui?
Oui, oui.
Et vous, Géraldine Prévost-Givence?
Ah, absolument, absolument. Ça vient réveiller toutes nos failles narcissiques, je veux dire, en termes d'estime de soi. Ça peut vraiment nous faire dégringoler. On peut vraiment être sans dessus-dessous, désespéré, blessé, mortifié par la trahison amicale. C'est tout aussi violent que l'amour.
Et pourtant, on en parle moins et j'ai l'impression qu'on la redoute moins.
Parce que notre société met le focus, encore une fois, sur l'amour romantique. Et je suis tout à fait d'accord avec Aurore. Moi, j'ai très envie d'écrire sur le sujet. J'ai ce projet d'écrire sur l'importance de l'amitié, parce que une rencontre peut chambouler notre vie. Une rencontre amicale peut nous apporter tout autant qu'une rencontre amoureuse. Et une rupture amicale peut aussi être une crise transformationnelle très, très importante, tout autant que l'amour romantique.
Et tout à fait importante dans notre construction, du coup.
Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ça, il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes. Ces bracelets d'amitié dont vous parlez, en fait, c'est quelque chose de très très féminin.
Ouais.
Et que les hommes ont peu, et pourtant, il y a un vrai besoin d'amitié sincère masculine qui existe, hein, mais qui s'en parle très très peu.
Ouais. Quelle que soit la forme de l'amour, la forme que prend l'amour, il a des super pouvoirs, c'est ce qu'on est en train de voir ce matin. Il peut faire mal aussi, c'est ce dont on vient de parler. Et ça tombe bien, ça rejoint la chanson de Miles Kane, Love is Cruel.
Love is cruel.
Grand bien vous fasse. Yasmine Oulis sur France Inter.
Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'on garde le meilleur pour la fin, parce qu'on ne peut pas classer les différentes formes d'amour. Mais terminer sur les super pouvoirs de l'amour de soi me semble essentiel.
Pourquoi tu voudrais faire ça?
Parce que je suis amoureux de toi.
Désolée, je peux pas.
Tu peux pas quoi?
Je peux pas partir en bateau tout de suite.
T'es terrifié, mon amour. Mais écoute, c'est pas grave, moi aussi.
Je sais pas pourquoi tu n'arrives pas à saisir. J'ai trouvé une chose et je peux pas y renoncer. Ça, je le lâcherai pas. Et crois-moi, si je le faisais, tu ne serais pas autant amoureux de moi.
Le fameux équilibre. L'équilibre, ma chérie. L'équilibre, c'est n'autoriser personne à t'aimer moins que tu t'aimes toi-même.
Écoute-moi.
Voilà ce qui c'est l'équilibre,
attends,
d'accord?
Écoute-moi. Je t'interdis de me dire tout ce que j'ai su retirer ou pas comme leçon de cette année. Et tu arrêtes de me dire, chérie.
Nintendo.
Je ne veux plus entendre ça parce que je sens que je vais craquer.
Mais parle.
Écoute-moi.
Ok, mais parle.
Je ne sens pas le besoin de t'aimer pour me prouver que je m'aime moi-même.
Un extrait du film Manche, Prix, Aime de Ryan Murphy, sorti en salle en 2010, dans lequel vous entendez Julia Roberts, vraiment, elle s'énerve. Hein. Elle s'énerve parce qu'elle va faire le choix le plus important de sa vie, celui de se choisir elle-même. Je crois que ça vous parle, ça, Aurore Malécaras.
Oui, c'est très intéressant. Alors évidemment, la recherche en neurosciences n'est pas du tout capable d'aller répondre sur tout ça. Néanmoins, ce qu'on sait très très bien, c'est que si on a un bon amour de soi, si on a une bonne estime de soi, on est capable de bien aimer les autres. Et donc du coup de mettre des bonnes barrières. C'est ce qu'on entend dans cet extrait. Elle est en train de dire à l'autre, recule, tu ne peux pas te permettre de penser à ma place. On ne peut pas avoir cette espèce de fusion. Cette espèce de fusion, cette espèce d'intrusion qu'on entend un peu dans l'extrait, ça c'est ce qu'on va avoir quand précisément on va avoir un attachement insécure. On a du mal à poser ces barrières entre soi et les autres. Et ça, c'est le fait de s'aimer soi qui nous permet de se respecter, de se faire respecter.
Ce qu'on entend aussi dans cet extrait, c'est qu'elle le dit avec beaucoup de violence, comme si c'était très difficile pour elle. Donc c'est difficile d'avoir accès à cet amour de soi.
Alors, c'est difficile, ça dépend pour certaines personnes, ça peut l'être. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment est-ce que l'altérité est prise en compte dans un couple, ou dans une relation amicale aussi, et comment est-ce qu'elle se fait respecter. Des fois, justement, la personne en face ne va pas respecter cette altérité, ne va pas respecter son authenticité et ça peut amener à des réactions assez virulentes.
Et c'est souhaitable, ça, de réagir dans ces cas-là?
C'est mieux que de réagir. Alors après, il faut que ce soit mesuré, évidemment, et que ce soit proportionné à la situation, mais c'est important de ne pas non plus brider, justement, cet amour de soi et ce respect de soi.
Géraldine Privot-Gigan, lorsqu'on parle d'amour de soi, on entend parfois narcissisme et on l'entend de manière péjorative. Pourquoi ?
C'est beaucoup l'éducation, c'est beaucoup la société. On ne nous apprend pas à nous aimer. C'est souvent vu comme être égoïste. Or, l'amour de soi, c'est apprendre à se considérer, à se regarder avec bienveillance, à bien se traiter, à faire des bons choix, à se traiter comme sa meilleure amie. On parlait tout à l'heure de l'amitié. En rentrer en amitié avec soi-même, c'est fondamental parce que si je ne m'aime pas, je vais chercher chez l'autre l'amour que je n'arrive pas à me donner, par exemple. Et donc, à l'inverse, si je suis en paix avec moi-même, ça va insuffler quelque chose dans mes relations. Si je suis en paix avec moi-même, il y aura beaucoup moins de rapports de force, de rivalité, de jalousie, de doute, d'insécurité, si je me sécurise moi-même. Et donc, comment on s'aime au quotidien? Et ben, c'est justement au quotidien avec comment je me parle dans ma tête. Est-ce que je m'engueule? Est-ce que je me gronde? Est-ce que je me dis que j'aurais dû faire plus, que j'ai pas fait assez, que j'ai été trop? Ou au contraire, je me dis que j'ai fait du mieux que j'ai pu? Ça, si on fait ça tous les jours, c'est ça déjà le début de l'amour de soi.
Vous dites que c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. Est-ce que, en tant que parent, on peut, nous, le favoriser chez notre enfant? Et si oui, comment?
C'est absolument fondamental de transmettre par notre amour déjà ce qu'est l'amour et la bientraitance et inviter l'enfant à bien se traiter, à bien se considérer. Donc la façon dont nous allons regarder notre enfant, ce que nous allons lui renvoyer, va participer à son narcissisme, à son estime. Et aussi, on va lui apprendre à, quand on va remarquer les fois où il y a des déconsidérations, voire même, parfois il y a chez l'enfant des automaltraitances, qui disent aussi une souffrance. C'est à nous d'être attentif, de regarder ce qu'il se passe, ce que ça dit, et d'amener l'enfant vers plus de douceur envers lui-même.
De le valoriser aussi, j'imagine. Laurent Saint-Gérard, je vous vois réagir, ça évoque quoi chez vous ?
Géraldine a tellement raison. Je pense que l'amour de soi, pour les enfants, c'est aussi dans ce monde ultra connecté, où tout passe par le lien à l'extérieur, les écrans, les tablettes, qui font souvent pour des jeunes parents de formidables babysitters, et en même temps on peut tellement les comprendre. Et il faut aussi, je pense, sensibiliser les enfants à la vie intérieure.
Absolument.
À ce qui se passe à l'intérieur d'eux, de leur cœur, de leur tête. Je pense que c'est important de leur en parler, et aussi qu'il y ait des espaces et des moments dans l'éducation où ils ne soient pas tout le temps connectés vers l'extérieur, qu'ils puissent l'être un peu avec eux-mêmes. Mmh. De l'importance même de sensibiliser des enfants au calme, apprendre, même réapprendre à s'ennuyer, comme le faisait notre génération, parce que le temps était plus long à l'époque, etc.
Alors, là, on parle des enfants. Est-ce qu'on peut terminer sur une note positive concernant l'amour de soi, si on observe qu'on est, on n'est pas encore au point sur ce sujet-là? C'est quelque chose qui s'apprend, Aurore Malécaras.
C'est quelque chose qui s'apprend par les parents. C'est important de souligner que ça peut aussi se réapprendre.
Avec le temps, nous, avec en tant qu'adultes.
En tant qu'adultes, avec l'amitié, avec les relations aux autres, des fois en thérapie.
Je tiens à vous remercier tous les trois, parce que déjà, Laurent Saint-Gérard, vous avez partagé avec nous votre histoire pourtant si personnelle, voilà, pour pouvoir nous éclairer sur ces super pouvoirs de l'amour. On a bien vu à quel point l'amour a changé votre vie, l'amour de votre compagnon, mais aussi l'amour de toute votre famille. Merci beaucoup Géraldine Prévost-Gigant et Aurore Malécaras pour tous ces éclairages que vous nous avez apportés, bien sûr. Géraldine Prévost-Gigant, je rappelle le titre d'un de vos 19 ouvrages, La force de la rencontre, publié chez Odile Jacob. Pouvez-vous, ils sont en plus traduit en plusieurs langues. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rappeler le nom de votre dernier ouvrage ?
L'automaltraitance émotionnelle.
Et ça ferait l'objet d'une très très belle émission également. Aurore Malécaras, bien sûr. Votre livre « Cerveau, sexe et amour » est paru chez Human Science. Et là aussi, on va pouvoir en apprendre beaucoup. Un grand merci aux équipes qui m'accompagnent ce matin, comme chaque jour. Maria Pasquet à la réalisation, Paola Colin, Alex Olariwa-Jouotinois à la technique, Jessica Bagic, Lucie Grandet-Lavigne, Noëlla Filliole, Elina Garcia à la préparation.
C'était Grand Bien vous fasse, à retrouver tous les matins à 10h sur France Inter et à la réécoute sur l'application Radio France. À suivre, après le journal, le débat de midi.
France Inter, à vos côtés toute la nuit. Bonne nuit sur